Les matins de France Culture.
Et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Avec un sombre retour en arrière.
Oui, un retour illustré pour commencer par ce dessin dans les colonnes du NRC Handelsblatt. Sur la première image, un homme se tient debout dans la rue et regarde circonspect l'affiche placardée sur un mur de celui qu'on imagine être son président en uniforme militaire, la poitrine bardée de décorations et traversée par une écharpe sur laquelle on peut lire ceci « Dictature ». Sur la deuxième image, notre homme a désormais rejoint une foule qui agite des panneaux sur lesquels sont inscrits les mots de « révolution » et de « liberté ». Enfin, sur la troisième et dernière image, cette fois-ci, notre homme se retrouve à nouveau seul dans la rue. Sur le mur, trois affiches se dressent à présent face à lui. Sur chacune d'entre elles, un homme y porte une écharpe sur laquelle on peut lire « démocratie », sauf que tous portent aussi l'uniforme militaire et ressemblent à s'y méprendre au dictateur de la première image. En trois dessins seulement, cette planche sous forme de bande dessinée résume à elle seule cette année d'histoire égyptienne. Lorsqu'en 2011, le soulèvement de la place Tahrir parvient à renverser le dictateur Moubarak, ce dernier remplacé l'année suivante par un islamiste, Mohamed Morsi, le premier président élu démocratiquement, mais lui-même sera écarté du pouvoir un an plus tard par des manifestations massives qui porteront à la tête du pays le général Al-Sisi, lequel vient d'être réélu, donc avec un score avoisinant les 92%, c'est-à-dire, rappelle le quotidien Al-Masri Al-Youm, à un niveau comparable à celui de l'ex-dictateur Moubarak. La boucle est bouclée. Alors évidemment, personne n'a jamais douté de l'issue de ce scrutin, et pour cause, précise ce matin la correspondante du Los Angeles Times, puisqu'après avoir arrêté ou intimidé pour qu'il se retire de la course tous ses challengers les plus sérieux, ne subsistait face à lui qu'un seul candidat, ou plutôt une marionnette destinée à donner à cette élection un vernis de légitimité. Hier soir, à peine les bureaux de vote étaient-ils fermés que dans un tweet, Al-Sisi a lui déclaré « Ces scènes d'Égyptiens réunis dans les bureaux de vote resteront ma source de fierté et d'honneur et une preuve convaincante de la grandeur de notre nation. » Alors, dans ce qui apparaît comme une vaste farce électorale, peut-être fallait-il y voir une plaisanterie étrangement subtile. Toujours est-il que la réalité apparaît ce matin bien différente. Un peu plus d'un électeur sur trois seulement s'est rendu aux urnes, alors même qu'en Égypte, le vote est une obligation légale et que tout avait été fait pour inciter les électeurs à aller voter quand on ne leur promettait pas des boîtes de nourriture ou des versements en espèces. Ainsi que certains électeurs l'ont raconté aux journalistes sur place, d'autres se sont vus offrir de participer à un tirage au sort pour un pèlerinage gratuit à la Mecque si le taux de participation locale dépassait les 40%. Le journal Le Temps de relever in fine que la situation du pays illustre sans doute à la fois la part de l'échec de la séquence née en 2011, mais aussi les défis démocratiques auxquels sont confrontés les nouveaux régimes, et d'en conclure qu'après celle de Vladimir Poutine, la réélection du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est un non-événement, ou plutôt une illustration de plus du tragique comique de répétition.
Et s'agissant de la Russie, justement, Thomas, Moscou a annoncé hier l'expulsion de 60 diplomates américains en réponse aux mesures équivalentes prises par Washington après l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ex-agent double Sergueï Skripal.
Oui, la Russie donne une semaine aux 58 diplomates et deux autres fonctionnaires américains pour quitter le pays, titre The Moscow Times, ou quand l'escalade continue, résume pour sa part The New York Times. Jamais depuis des décennies, dit-il, les tensions n'avaient atteint un tel niveau, même si, rappelle le quotidien américain, les relations entre la Russie et l'Occident s'étaient déjà bien dégradées depuis le rôle joué par Moscou dans la guerre en Ukraine, suivi de l'annexion de la Crimée, sans oublier son intervention en Syrie, son ingérence présumée dans les élections aux États-Unis et, plus globalement, dans toutes ces campagnes de désinformation destinées à discréditer et déstabiliser les démocraties occidentales. Puis l'intensification de cette crise exerce également une pression supplémentaire désormais sur le président Donald Trump, lequel hésite toujours à critiquer son homologue russe. Hier, la Maison-Blanche s'est d'ailleurs contenté de qualifier les actions en représailles du Kremlin de nouvelle détérioration des relations entre les États-Unis et la Russie. Enfin, s'agissant cette fois-ci des suites de l'affaire Sergueï Skripal, The Daily Mirror et The Eye rendent compte ce matin en une de l'amélioration de l'état de santé de sa fille, Yulia, laquelle ne serait plus dans un état critique contrairement à son père.
Et puis aux États-Unis, la mort dans la nuit du 18 mars dernier à Sacramento de Stephen Clark a ravivé la colère et les protestations, notamment des militants du mouvement Black Lives Matter.
Et deux policiers, 10 minutes et 20 balles au total. Voilà ce qui a provoqué la mort d'un nouveau jeune homme noir non armé, seulement muni de son téléphone portable et tué cette fois-ci dans le jardin de la maison de sa grand-mère, rappelle The New York Times. Et dans cette ville où blancs et latinos sont largement majoritaires, la mort de Stephen Clark vient donc illustrer une nouvelle fois combien la police traite les citoyens noirs avec mépris et cible notamment de manière injuste les quartiers où ils résident. Alors hier, des centaines de personnes ont assisté aux obsèques du jeune homme. Hier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a elle qualifié cette fusillade terrible de sujet local, ce qui n'a pas manqué évidemment notre USA Today de susciter l'indignation du représentant représentants des élus afro-américains au Congrès. Quoi qu'il en soit, à Sacramento, précise toujours le journal, les appels à plus de justice qui s'accumulent sur les murs du bureau du procureur font désormais écho à de très nombreux autres endroits aux États-Unis, en particulier dans le Missouri, le Minnesota et New York, où tant d'autres hommes noirs sont là aussi morts sous les coups de la police.